Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, on comprend mieux la politique africaine de François Mitterrand lorsqu'on s'intéresse à la vision du continent qu'avait l'ancien président quand il était ministre sous la 4e République. Pour ce faire, le livre de notre invité cette semaine est précieux. Il s'intitule « L'Afrique d'abord » quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. Spécialiste des relations entre la France et l'Afrique, Thomas Deltombe en est l'auteur. Il note ceci. Pour le François Mitterrand des années 50, le continent africain n'est pas seulement le joyau de l'empire colonial, rebaptisé Union française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il conditionne l'avenir et la survie même de la nation française. La France du 21e siècle sera africaine ou ne sera pas, écrit-il dès 1952. Une Afrique considérée également comme un tremplin par François Mitterrand. En effet, à l'époque, l'Afrique, souligne Thomas Deltombe, est un excellent investissement pour qui rêve de s'élever rapidement dans la hiérarchie du pouvoir. Nous allons le constater donc dans ce nouveau numéro du magazine Idée que vous pouvez aussi écouter à tout moment sur l'appli RFI, le site de la radio ou votre plateforme numérique préférée. Bonjour Thomas Deltombe.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. Vous êtes éditeur, chercheur indépendant, spécialiste de l'Afrique, en tout cas de ses relations entre la France et l'Afrique. Un des auteurs de Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, aux éditions La Découverte également en 2011. Et un des co-directeurs de l'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, publié au Seuil en 2021. Nous en avions parlé ici même, Thomas Deltombe là. J'ai beaucoup aimé votre livre, je dois le dire, parce que vous innovez. On y apprend plein de choses. Personne, finalement, ne s'est vraiment intéressé, de façon scientifique, historique, à François Mitterrand sous la 4e République, François Mitterrand et l'Afrique.
Alors, oui, je dois dire que ça a été une surprise pour moi. Pour tout vous dire, j'avais commencé à travailler sur ces questions, sur ce personnage, François Mitterrand, il y a un certain nombre d'années, notamment au début de mes investigations historiques sur les relations franco-camerounaises, puis de façon plus précise pour le second ouvrage que vous avez mentionné, L'Empire qui ne veut pas mourir, dans lequel j'ai écrit un article sur François Mitterrand et la naissance de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et dans le cadre de ce livre, j'ai accumulé énormément de matériaux, d'archives de presse, mais aussi d'archives qu'on trouve dans les archives nationales, etc., qui m'ont beaucoup intrigué parce que je me suis rendu compte que personne ne les mentionnait. Alors c'est vrai que ça m'a donné l'idée d'approfondir et dans les années suivantes, je suis retourné dans toute une série de fonds d'archives pour essayer d'en savoir plus et je me suis rendu compte par contraste qu'en effet, peu de gens s'étaient intéressés à cette question, peu de gens étaient allés dans les archives, peu de gens étaient allés voir les journaux de l'époque de façon précise pour essayer de comprendre véritablement quelle était la logique, disons, africaine de François Mitterrand quand il était ministre sous la 4e République.
4e République, c'est-à-dire 1947-1958, l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir et la naissance de la 5e République. Donc cette époque qui va nous intéresser. On va essayer de ne pas faire d'anachronisme, de se replonger dans l'époque. Ce qui veut dire, par exemple, en ce qui concerne François Mitterrand, qu'il était attaché à ce que vous appelez le mythe impérial.
Alors, comme beaucoup de gens de son époque, beaucoup de gens de sa génération...
Au début, en tout cas.
Tout à fait. Bah, il le restait toute sa vie, avis. Il fait partie de cette génération qui pense que la puissance française repose sur son socle impérial. Et c'est d'autant plus fort au sortir de la Deuxième Guerre mondiale que la France est affaiblie. Elle n'a pas brillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, son empire est contesté en Asie, en Indochine. Et finalement, son socle de puissance, en tout cas dans l'esprit des élites françaises, des dirigeants français, est l'Afrique. L'Afrique qui s'est illustrée comme effectivement la zone de repli à partir de laquelle la France a pu retrouver sa souveraineté nationale. Donc Mitterrand est totalement dans ce mythe de la puissance par l'Empire. Au début, il maîtrise assez mal ces questions. C'est plutôt intuitif. C'est l'impression qu'il a que, effectivement, l'Afrique est le socle de la puissance. Et puis, petit à petit, ses fonctions ministérielles l'amenant à voyager en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, il comprend qu'il y a là un enjeu extrêmement important, non seulement pour la France, mais également pour lui-même. Et ce qui je trouve très intéressant, et ce que j'essaie de raconter dans le livre, l'Afrique d'abord, hein, c'est que François Mitterrand va mettre l'Afrique au centre de ses priorités. Ça va être sa priorité à la fois en termes de projet politique pour la France, mais également en termes de projet politicien pour lui-même. Et il va utiliser l'Afrique finalement comme un marchepied vers les plus hautes sphères du pouvoir. En tout cas, c'est sa volonté affichée à partir du tournant des années 50.
Vous l'avez dit, Thomas Deltombe, il a été plusieurs fois ministre. Il faut rappeler de quoi
11 fois ministre sous la 4e République.
Donc, ministre des anciens combattants, de la justice, là, je le donne dans le désordre, de l'intérieur.
Oui, il a été ministre des anciens combattants parce que c'était une de ses spécialités sous Vichy.
Oui.
Je parle pas mal de Vichy, étrangement.
On va y revenir.
Et ensuite, pendant la résistance, il s'est beaucoup intéressé à la question des prisonniers de guerre. Puis il est ministre de l'information, puis, et c'est l'étape la plus importante sans doute, il le dit lui-même dans ses mémoires, ministre de la France d'Outre-mer à partir de juillet 1950 dans le gouvernement de René Pleven. Fonction qui, dit-il, il dira plus tard que ça a été le tournant de sa vie politique, le tournant le plus important. Puis ensuite il a différentes fonctions ministérielles. Et puis les deux dernières plus importantes sont ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Pierre Mendès-France en 1954.
Une époque importante, on va y revenir.
Une époque évidemment centrale. Et ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans le gouvernement de Guy Mollet à partir de 1956. Des fonctions très importantes. Et il est à la dernière marche avant d'être président du Conseil, donc Premier ministre. Et c'est à l'époque, en plus, on est dans un régime parlementaire. Et son rêve ultime, c'est de devenir président du Conseil, donc arriver à Matignon. Ça restera un rêve et l'Afrique, là-dedans, joue un rôle absolument capital.
Alors, on va s'intéresser à cette période, notamment 1950-1951. Je crois que ça a duré quelques mois. Les gouvernements de la 4e République ne durent jamais longtemps. Pour nous mettre dans l'ambiance, Thomas Deltombe, écoutons François Mitterrand, à l'époque. Il évoque un voyage qu'il a effectué en février 1951. Donc, il venait d'être ministre de l'Afrique, en quelque sorte.
Oui. De l'Afrique, dans la mesure, juste une petite parenthèse, c'est qu'il est ministre de la France d'Outre-mer, mais justement, dans ce gouvernement-là, l'Indochine, les États d'Indochine, disons, ont été donnés à un autre ministère, un autre département ministériel. Donc il est effectivement ministre de l'Afrique subsaharienne et de Madagascar.
On l'écoute.
Parti le 30 janvier en direction du Tchad, j'ai pu, au passage, m'arrêter quelques heures à Niamey, capitale du Niger. Là, j'ai effectué un voyage classique d'inspection, me renseignant auprès du gouverneur de ce territoire des éléments à la fois politiques et économiques de la vie même du Niger. Au Tchad, il en a été de même, et j'ai pu, soit à Fort Lamy, soit à Abéché, soit à Fort Archambault, constater la volonté réelle à la fois de l'administration et de tous ceux qui, à des titres divers, participent à la vie économique du Tchad, de continuer de promouvoir ce territoire vers la magnifique destinée qui lui est promise. Et puis, me rendant à Abidjan, où je devais inaugurer le port, sous la présidence de M. Fourcade, président de l'Assemblée de l'Union française, j'ai pu faire escale à Lomé, au Togo, où un certain nombre de problèmes tout à fait actuels devaient retenir mon attention. 3 jours à Abidjan, puis, sur le voyage de retour, je pus m'arrêter à Conakry, en Guinée, à Cancan, en Haute-Guinée. Enfin, l'étape nécessaire, indispensable et fort utile, à Dakar et à Saint-Louis, cette vieille ville française, avant mon retour à Paris.
Donc François Mitterrand, 1951, évoquant un voyage, cette archive a le mérite de nous faire déjà voyager dans ce qu'on considérait comme l'Empire français.
Alors c'est très intéressant et ce n'est pas son premier voyage. Il a, à titre de ministre de l'information, déjà effectué un voyage en Afrique centrale. Puis, plus important, il a effectué pour l'Alliance française, pour des conférences, dans un cycle de conférences pour l'Alliance française au début de l'année 1950, une tournée en Afrique occidentale française, en AOF, où il a véritablement découvert l'AOF. Et il est absolument enchanté, il a laissé un journal de bord.
Dont vous publiez quelques pages.
Quelques extraits.
Où là, on voit Mitterrand totalement déconnecté, comme on dit aujourd'hui.
Alors, c'est ça. C'est un document extraordinaire, en réalité, qui a été cité par bribes par quelques biographes et historiens. Et en fait, il est consultable depuis 2021 dans les fonds d'Anne Pinjot à la Bibliothèque nationale de France. Donc, on n'a pas le droit de photographier. Donc je l'ai recopié. C'est une trentaine de pages où il raconte son périple. Et il est dans une logique totalement coloniale, pour ne pas dire colonialiste. Hein. C'est-à-dire que pour lui, il chasse, il passe son temps avec la bonne bourgeoisie coloniale, etc. Bon, il est vraiment comme un jeune colonial, enchanté par toutes ses couleurs. Mais bon, passons. En tout cas, il avait déjà découvert, entre guillemets, l'Afrique centrale et l'AEF, et l'Afrique occidentale, la OEF, dans les années précédentes, dans les mois précédents, l'archive que vous avez diffusée. Cette archive est très intéressante, effectivement, parce que là, il est ministre, il représente donc l'autorité française, et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en réalité, il y a de très fortes tensions à cette période en AOF. Il y a eu très forte tension, notamment en Côte d'Ivoire, qui vient de traverser des troubles très graves, on y reviendra peut-être, où l'administration française a cherché à éradiquer le Rassemblement démocratique africain, le RDA, donc qui a créé des très fortes tensions dans cette zone, on va y revenir. RDA, ouais. Mais l'administration est aussi contestée par les colons. Les colons, les blancs d'Afrique de l'Ouest, qui ont très peur des réformes potentielles que le gouvernement pourrait prendre et qui ont très peur également de la mainmise de certains partis gouvernementaux sur la politique coloniale. Et il est intéressant d'écouter Mitterrand parler du Tchad. Il dit « Je suis allé au Tchad ». Et s'il est allé au Tchad, je passe les détails, c'est parce qu'il est il a été très contesté dans les semaines précédentes par les colons du Tchad qui sont gaullistes. On a parlé tout à l'heure du rôle de l'Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale et en particulier le rôle du Tchad. Et les gaullistes sont très implantés et détestent Mitterrand, déteste la 4e République, déteste Mitterrand qui représente la 4e République.
Il faut rappeler effectivement que le Tchad était le berceau de De Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, en Afrique, Félix Eboué, etc. Je passe sur les détails. Mais, et donc, il est extrêmement contesté au Tchad et il y va un peu comme une bravade. Pour dire, regardez, c'est moi qui ai l'autorité. Il aime beaucoup affirmer son autorité, hein, François Mitterrand. Et il est très jeune, hein. Il est né en 1916, donc à l'époque, il est trentenaire. Hein. Il n'a même pas 40 ans, hein. Ce qui est quand même assez impressionnant, mais il aime affirmer son autorité. Et donc, effectivement, il fait toute cette tournée-là. Et puis, l'étape principale de cette tournée, c'est l'inauguration du port d'Abidjan, en réalité le canal de Vridi, je crois, qui est l'occasion d'une fête pendant plusieurs jours, avec des bateaux battant pavillon, tricolores, des courses, des rallyes automobiles, etc. Enfin, une énorme fête coloniale qui devrait normalement célébrer justement la grandeur de la France. Simplement, Mitterrand et en fait derrière lui, le gouvernement français est contesté par les colons, beaucoup plus conservateurs, qui s'étonnent en particulier de l'invitation de Félix Houphouët-Boigny, à l'époque président du Rassemblement démocratique africain, est considéré encore comme communisant. Et donc, voilà, c'est un voyage sous très haute tension en réalité. C'est des grandes fêtes qui cachent une très grande tension.
Ce numéro d'idées consacré à François Mitterrand et l'Afrique sous la 4e République avec notre invité Thomas Deltombe qui vient d'écrire « L'Afrique d'abord quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français », un livre publié aux éditions La Découverte. Thomas, je vous propose de rappeler deux choses. D'abord, il nous faut évoquer la conférence de Brazzaville pour bien comprendre l'Afrique de l'époque. Et ensuite, la naissance de ce Rassemblement démocratique africain. La conférence de Brazzaville a un peu changé la vision qu'avaient les Français du colonialisme.
Alors c'est effectivement un événement majeur. Hein, la
conférence en 1944.
1944, début 1944. C'est un événement majeur qui à l'époque est passé relativement inaperçu. Hein. Mais a posteriori, on s'est rendu compte à quel point il était important. L'administration du gouvernement provisoire organise une conférence avec les administrateurs coloniaux d'Afrique pour réfléchir à la réforme des relations franco-africaines, pour aller vite. Il y a vraiment cette idée, notamment les organisateurs, Henri Laurenti en particulier, qui organise cette conférence, est très réformateur. Il sait, en fait, il a compris que si on veut pouvoir perpétuer l'Empire, il va falloir changer la forme de l'Empire. Maintenir le fond en changeant la forme. Ça, c'est absolument fondamental. Ils initient, hein, les organisateurs de cette conférence, initient cette politique de réforme pour prolonger l'effort colonial. Et pourquoi c'est important d'en parler, en effet, c'est que François Mitterrand va, quelques années plus tard, suivre cette ligne. Son idée, ce n'est pas de mettre fin à l'Empire français, c'est au contraire de le prolonger, mais cela suppose de le réformer. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à posteriori, il a voulu faire croire qu'il avait été un décolonisateur. Et beaucoup d'historiens, beaucoup d'observateurs ont cru ça.
Ah, c'est ça qui frappe. Tout au long de votre livre, Thomas, vous revisitez en quelque sorte toutes les biographies consacrées à François Mitterrand et on s'aperçoit que, quelquefois, on est à deux doigts du mensonge, hein,
oui,
ou de la contre-vérité.
On peut le dire comme ça, en effet. Ouais. C'est-à-dire que, oui, on est même parfois dans le mensonge
en ce qui
complet.
Concerne l'Afrique.
Hein. Alors, oui, on est parfois dans le mensonge complet, qui vient souvent d'un mensonge de François Mitterrand lui-même et de ses amis.
Mais qui n'a pas été vérifié.
François Mitterrand, mentait comme un arracheur de dents, mais à la limite, comme je le dis à un moment, c'est logique, hein, c'est un homme politique, c'est presque son métier de mentir. Ce qui est plus gênant, en tout cas plus troublant, c'est qu'effectivement un certain nombre de journalistes, d'observateurs et même d'historiens se sont laissés aller finalement à valider son interprétation. Notamment qu'il aurait été un décolonisateur, un grand émancipateur de l'Afrique, etc. etc. Bon, j'explique à la fin du livre pourquoi, comment tout ça s'est développé. Mais en réalité, quand on regarde les archives de très près, on s'aperçoit que c'est totalement faux. En fait, c'est un réformateur colonial, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que son but, c'est de changer la forme pour perpétuer le fond, c'est-à-dire la colonisation. Et alors, on rentre peut-être sur un autre sujet, mais il est la figure de proue de ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle dès cette époque, le néocolonialisme. Alors ça, j'ai fait une découverte aussi, c'est que ce terme de néocolonialisme, qu'on prête souvent à Kwame Nkrumah dans les années 60, ou à Jean-Paul Sartre à la fin des années 50, en réalité, a été utilisé dès le milieu des années 50 pour qualifier la politique de Mitterrand. Et ça, ça m'a quand même énormément surpris. Il est décrit dès 1954 comme le théoricien du néocolonialisme. Alors, pour revenir à cette question de la conférence de Brazzaville, effectivement, la conférence de Brazzaville trace le chemin que va emprunter dans les années suivantes François Mitterrand.
Et il y a, en 1946, un autre événement important, c'est la naissance du Rassemblement démocratique africain. Il faut en dire un mot aussi.
Alors, effectivement, le Rassemblement démocratique africain, présidé par Félix Houphouët-Boigny, député de Côte d'Ivoire, est très important dans ce livre, puisque François Mitterrand et Félix Houphouët-Boigny vont sceller un pacte au tournant des années 50, un pacte qui est à la fois très opportuniste et assez idéologique également. Alors, le Rassemblement démocratique africain est effectivement un parti interrégional, interterritorial, comme on disait à l'époque, de plusieurs territoires d'Afrique française qui se regroupent pour défendre les intérêts des Africains. C'est un parti qui s'affilie au départ au Parti communiste français, qui à l'époque appartient au gouvernement.
Et on sait la puissance qu'avait le
Parti
communiste.
C'était le premier parti de France et il appartenait au gouvernement. Donc, le RDA, estimant que le Parti communiste était le plus susceptible de défendre les intérêts des Africains, assez logiquement, s'était allié au PCF. Sauf qu'avec la guerre froide, à partir de 1947, le Parti communiste est expulsé du gouvernement français et ça pose un problème au RDA qui se retrouve dans l'opposition de fait. Et donc tout le jeu d'Houphouët-Boigny, de façon assez cynique, de façon assez solitaire, va être de désapparenter le RDA du PCF pour se raccrocher à des forces gouvernementales. En gros, il est assez opportuniste dans la mesure où il suit le sens du vent. Il s'allie avec ceux qui ont le pouvoir. Donc en 1946 avec le PCF, une fois que le PCF est dans l'opposition, il cherche un plan B. Simplement, tout le monde n'est pas forcément d'accord dans le RDA. Donc il y a de très très fortes tensions à l'intérieur du RDA et Félix Houphouët-Boigny va finalement réussir à l'emporter. Il va s'allier au parti de François Mitterrand.
C'est-à-dire
l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, hein, qui est assez peu socialiste au bout du compte, plutôt centriste, on va dire, et qui est un petit
créé par un gaulliste, René Pleven, non ?
Créé par un milieu gaulliste, disons, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un parti un peu hybride, surtout c'est un petit parti, Donc on pourrait dire que ce n'est pas un parti très important puisqu'il est petit, mais en fait il est très bien placé et donc il se coalise avec les gros partis, ce qui permet à ses dirigeants, René Pleven et François Mitterrand, d'obtenir ces Marocains ministériels.
Et donc François Mitterrand va dire que c'est grâce à lui en fait que Félix Houphouët-Boigny a réussi cette conversion.
Effectivement, il faut toujours distinguer ce qu'on trouve dans les archives du récit qui a été fait de cette histoire par François Mitterrand et par un certain nombre de commentateurs. François Mitterrand a toujours dit qu'il avait été l'architecte du désapparentement de Félix Houphouët-Boigny et du RDA, du PCF. Et que donc c'est grâce à lui qu'enfin le principal parti africain avait réussi à rentrer dans la voie de la rationalité et avait permis finalement une décolonisation sans tension, etc. Bon, tout ça c'est un mythe. On le voit très bien dans les archives. En réalité, le principal responsable du désapparentement, comme je l'ai dit, c'est Félix Houphouët-Boigny, qui lui-même considère qu'il n'a plus intérêt à être allié au Parti communiste et qui donc cherche une alternative. Et François Mitterrand joue effectivement un rôle important, mais dans un second temps. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de la France d'Outre-mer, c'est lui qui doit assumer la réintégration finalement de Félix Houphouët-Boigny et du RDA dans le jeu politique en 51. Donc il y a deux étapes. Je différencie bien les deux étapes. La première étape qui est le désapparentement lié à une volonté de Félix Houphouët-Boigny et la récupération de cet apparentement, récupération stratégique par François Mitterrand, qui va utiliser le RDA et à travers lui les questions africaines comme marchepied vers le pouvoir. Oui, donc il va s'allier, en fait, l'UDSR, dont il va devenir bientôt le chef, le président, va s'allier avec le RDA et ensemble, ces deux petits partis, deux partis charnières finalement, ces deux partis vont se hisser encore plus haut dans l'échelle du gouvernement. Et ça va aboutir en 1956 au fait que François Mitterrand et Félix Houphouët-Boigny seront tous les deux ministres du même gouvernement, le gouvernement Guy Mollet.
Ce qui veut dire que Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle important à l'époque. Hein.
Ah, très, très important. Il a un rôle absolument central. Et son retournement, sa volte-face, paraît incompréhensible aux observateurs et aux responsables politiques de l'époque. Ils sont absolument estomaqués par la manœuvre de Félix Houphouët-Boigny qui passe du jour au lendemain. C'est-à-dire que, vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que le 14 juillet 1950, il est à la tribune avec tous les caciques du Parti communiste français. Deux mois plus tard, il renie la désapparentement et il va aller s'allier avec des partis gouvernementaux. Quand même, c'est un retournement absolument spectaculaire. Et les plus surpris sont en fait même la base du RDA. Les militants qui sont en Afrique et qui ne comprennent pas. Ah oui, alors, et puis, à l'époque, le vocabulaire est assez rude. Hein. On parle du gouvernement comme de fasciste, comme de terroriste, etc. Donc, les gens qui étaient traités dans la presse du RDA de fascistes, de terroristes et autres noms d'oiseaux deviennent les alliés du RDA 6 mois plus tard. Alors, là, évidemment, ça surprend quand même beaucoup de monde. Et François Mitterrand, qui est quelqu'un de très intelligent, comprend tout l'intérêt qu'il peut tirer de cette évolution très rapide.
François Mitterrand qui accorde au journal Combat, grand journal de l'époque, hein, Camus par exemple, le 19 mai 1954, une tonitruante interview, parce que vous publiez en plus quelques documents dans ce livre, Thomas Deltombe, où il invite, à une interview dans laquelle il invite les jeunes français à aller en Afrique. Et là, il faut citer ce que dit François Mitterrand. Nous sommes en 1954, hein, c'est-à-dire qu'il a eu le temps d'évoluer depuis l'après-guerre. Et il dit ceci. « Que de jeunes hommes de France se disent donc qu'ils habitent un immense pays de 7000 km sur 3000 qui est pratiquement inexploité, où tout est à faire. Les vieux empêchent la jeunesse d'y agir et veulent garder pour eux les richesses. Il faut que l'on sache que toutes ces richesses peuvent être utilisées, multipliées, partagées. Le rôle des jeunes est donc, je le répète, un rôle de conquérant géographique et pacifique. Au milieu du Sahara, on se sent l'âme plus élevée qu'entre les haies et nous avons encore de la terre à prendre. » 1954, François Mitterrand.
Alors c'est ça, c'est intéressant. En fait, c'est à cette date que François Mitterrand est à l'apogée de sa carrière sur la 4e République. C'est-à-dire qu'il a misé sur l'Afrique assez tôt, hein, de façon assez opportuniste, hein, je l'ai dit. Mm-hmm. À partir de 1950, il comprend l'intérêt du continent africain, tout le continent africain d'ailleurs, Afrique du Nord comme Afrique subsaharienne. Il comprend que c'est important de défendre la présence française en Afrique, entre guillemets. Il comprend que c'est important pour lui, personnellement, pour se positionner dans le jeu politique hexagonal. Et effectivement, après la perte de l'Indochine en 1954, avril 1954, tous ces plans se vérifient finalement. Vous voyez, l'Indochine, il fallait l'abandonner, il faut se concentrer sur l'Afrique. Il faut investir économiquement et humainement en Afrique. Donc c'est l'extrait que vous citez là, qui est effectivement de cette période-là, le milieu de l'année 54, ou l'année 54, où là, ça y est, son projet néocolonial est abouti. Il dit maintenant, il n'y a plus qu'à investir massivement en Afrique, et vous allez voir, on va faire ce qu'il appelle une nation-continent. La France-Afrique, en fait. Et d'ailleurs, ce terme apparaît plusieurs fois dans le livre. Moi aussi, j'ai préparé une petite citation de cette époque.
Allez-y.
Oui, qui m'a beaucoup surpris aussi. C'est-à-dire, on dit toujours que Mitterrand, on dit a posteriori, disons, que Mitterrand était un progressiste. Mais en fait, il était totalement colonialiste. Et cette citation, elle est tirée du journal Climat en septembre 1953. Il dit « Mais oui, je suis un nationaliste convaincu et impénitent. Je ne suis pas seulement partisan de la présence française en Afrique, mais de l'expansion française. » Et puis, il continue comme ça. Donc, il est bien dans cette logique véritablement coloniale. C'est-à-dire, l'expansion française, on croirait entendre un discours du 19e siècle.
Alors, quelle est sa politique concrètement? C'est-à-dire qu'il veut donner un peu plus de pouvoir aux autorités locales?
Alors, son idée, c'est... Alors, il est obligé d'évoluer au cours de la période, mais son idée générale...
Parce que les colons sont contre lui, en fait.
Voilà, c'est ça. Son idée, c'est de trouver une troisième voie. Troisième voie entre les colons rétrogrades, qui ne veulent rien changer, partisans du statu quo, et puis ceux qui veulent, selon Mitterrand et ce courant, qui veulent trop, c'est-à-dire qui veulent l'indépendance. Donc, en gros, entre ceux qui veulent le statu quo et ceux qui veulent l'indépendance. Il faut, dit-il, une troisième voie. Et cette troisième voie consiste à... promouvoir une partie des élites locales africaines et de les utiliser contre les Africains qui revendiquent l'indépendance. Donc, il dit, il faut qu'on réforme le système de façon à ce que ceux qui sont capables d'accepter ces réformes dont ils vont bénéficier à titre personnel, deviennent nos agents, en fait, indirectement, sur le continent africain, de sorte qu'on pourra ensuite impitoyablement châtier ceux qui seront trop intransigeants. C'est vraiment sa politique. Donc, c'est vraiment réformer le système colonial pour le faire durer en s'appuyant sur des élites africaines loyales. C'est ça, son projet. Et effectivement, quand il arrive, quand il est nommé dans le gouvernement de Pierre Mendès France, en juin 1954, il a son but, il demande à Pierre Mendès France d'avoir un grand ministère de l'Union française, des protectorats, en gros, un grand ministère de l'Afrique. Mais là, qui prendrait même en compte l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, Madagascar, etc., etc. Il voudrait même une vice-présidence, avec ce titre-là de, en gros, ministre des colonies africaines, quoi. Alors finalement, il n'aura que le ministère de l'Intérieur, qui est en particulier chargé de l'Algérie, dont on parle assez peu jusque-là, jusqu'en 54. Sauf que tout va changer en 54 avec l'insurrection du FLN.
Alors justement, nous y sommes, Thomas Deltombe, en Afrique du Nord. Avant de parler de l'Algérie, il faut parler de la Tunisie aussi, qui est un autre dossier que François Mitterrand a dû gérer, entre guillemets.
Alors il ne l'a pas vraiment géré, mais effectivement, il s'y est intéressé de très très près. C'est-à-dire qu'au moment où il fait alliance avec Oufouette Boigny, donc fin 51, début 52, il est chargé... dans le gouvernement de l'époque, de réfléchir à la réforme des relations entre la France et la Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un cas spécial, comme le Maroc, puisque c'est un protectorat. Mmh. Un protectorat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... La France n'est pas souveraine directement. Il doit normalement y avoir un gouvernement local tunisien. Et puis, il doit y avoir un accord, finalement, entre le gouvernement français et le gouvernement tunisien pour gérer les affaires tunisiennes. Sauf que... l'histoire faisant, l'évolution des mœurs politiques faisant, finalement, la France, évidemment, a géré la Tunisie comme si elle était dans le Poitou-Charentes ou en Alsace. Bon. Et donc, évidemment, cela crée d'énormes tensions en Tunisie, où des mouvements indépendantistes, le néo-destour en particulier, réclament l'autonomie ou l'indépendance. Bon. Et donc, c'est à cette période-là, donc février-mars 1952, que François Mitterrand rédige un long rapport de 52 pages qui théorise véritablement comment on pourrait renouveler la relation franco-tunisienne, la moderniser finalement. Et pourquoi c'est intéressant rétrospectivement? Puisque ça ressemble un peu à l'archétype de ce que sera la France-Afrique quelques années plus tard. C'est-à-dire, on va laisser une autonomie interne au gouvernement tunisien. Mais, donc voilà, une forme de souveraineté. Mais cette souveraineté sera encadrée par des accords bilatéraux. Il met même dans son rapport, il met même en annexe des exemples d'accords bilatéraux monétaires, culturels, etc. Donc ça ressemble énormément aux accords de coopération qui seront signés quelques années plus tard sous la Ve République.
Après les indépendances.
Au moment des indépendances. C'est ça. Et donc c'est là que c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on voit que François Mitterrand, dès cette époque-là, a compris comment on pourrait passer d'un système colonial à un système néocolonial.
Thank you.
suite de ce numéro d'idées consacré à François Mitterrand et l'Afrique sous la 4e République avec notre invité Thomas Deltombe. Il nous faut évidemment parler de l'Algérie qui est au cœur de cette 4e République, fin de 4e République, qui a mis fin d'ailleurs à la 4e République. Et en 1954 commence véritablement ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, la guerre d'Algérie tout simplement, avec ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge, c'est-à-dire les premiers attentats du FLN, Front de Libération Nationale. C'était au début de l'année 1954. François Mitterrand est alors ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il dit alors.
Nous sommes donc au milieu du troisième jour de ce trop bref voyage à travers la région qui a le plus souffert de la tentative insurrectionnelle manquée. Cependant, il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Ghenchla, de Patna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Elle n'a donc pas suivi, elle n'a pas obéi au mot d'ordre. De ci, de là, elle a hésité, mais dans peu d'endroits. Et donc, de notre devoir à nous, faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens.
François Mitterrand, donc, en novembre 1954, lors de cette Toussaint Rouge, et là, c'est le François Mitterrand, comme on dit aujourd'hui, droit dans ses bottes.
Alors, c'est assez logique, hein, puisqu'il est ministre de l'Intérieur à l'époque, il pourrait difficilement dire autre chose. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette séquence temporelle, c'est qu'en réalité, il est déjà allé en Algérie quelques semaines plus tôt pour plutôt défendre l'idée d'une réforme. Toujours cette idée de réforme, en fait. Il avait dit quelques semaines
plus tôt. Pas un révolutionnaire, c'est un réformiste.
C'est un réformiste conservateur, du coup. Hein. C'est la réforme conservatrice. Il avait dit, il faut qu'on réforme la relation franco-algérienne. C'est logique, c'est tout à fait logique qu'on s'adapte au temps, à l'époque, etc., etc. Et puis là, il est dans un discours, évidemment, de force, hein, il le dit, de répression. Et ce qui est très intéressant, et ça parcourt tout le livre, en fait, c'est que François Mitterrand a toujours allié ce qu'on pourrait appeler la ruse et la force. C'est-à-dire, a posteriori, il a souvent été décrit comme quelqu'un qui était très progressiste, etc., plutôt rétif à l'usage de la violence, de la force, de la répression. Mais en réalité, lui-même, à l'époque, dit toujours que les deux vont ensemble. Et son but, en fait, c'est de réformer pour ne pas avoir utilisé la force, mais pour atteindre le même résultat, qui est le maintien de la présence française en Afrique.
L'Algérie, c'est la France.
L'Algérie, c'est la France. Alors, c'est intéressant,
c'est ce
parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Après, ça lui a été beaucoup reproché, il a dû s'en expliquer, etc., etc. Ce que j'ai découvert, alors peut-être que ça a été dit ailleurs, mais je ne l'avais pas lu, c'est qu'en fait, il utilise cette expression quelques jours avant l'insurrection algérienne.
Oui, parce que vous mettez en exergue dans le chapitre consacré à l'Algérie, un des chapitres consacrés à Mitterrand et l'Algérie, la phrase suivante: François Mitterrand s'adressant à l'Assemblée nationale le 12 novembre 1954. L'Algérie, c'est la France. Et qui d'entre vous, mesdames, messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France?
Oui, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, tous les moyens. C'est-à-dire que... Alors, en fait, il est pris un peu à contre-pied à son jeu avec l'Algérie. Parce que jusqu'à présent, il disait... On peut avoir une politique de réforme assez audacieuse, on en a en Tunisie, en Afrique subsaharienne, etc. Mais il n'avait pas anticipé qu'il puisse y avoir en Algérie des courants qui voudraient sérieusement se séparer de la France. Pour lui, c'était, comme pour beaucoup de gens, c'était totalement inconcevable. Il est d'ailleurs entouré de gens qui sont qui sont des pieds noirs, très Algérie française, etc. Et pour lui, c'était totalement inconcevable. Et là, il est prêt à contre-pied parce qu'il avait essayé de se forger une image de réformiste, plutôt progressiste. Et puis tout d'un coup, il est au ministère de l'Intérieur, au moment où il y a une insurrection. Et il est obligé, évidemment, de dire qu'il va réprimer, tout en ayant dit justement qu'il fallait réformer. Donc il est pris un peu à son propre piège. Et pendant quelques mois, il ne sait pas très bien comment s'en sortir. Et y compris dans son propre parti, dont il est le président, l'UDSR, on commence à dire « on ne comprend plus très bien ta ligne, François. Est-ce que tu es pour, finalement, un assouplissement dans la relation coloniale ou au contraire une répression dure ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et d'ailleurs, ce que je raconte, c'est que quand on parle de tous les moyens, évidemment, on pense... À la torture. Et je raconte assez en détail la relation assez compliquée de François Mitterrand avec la torture. C'est-à-dire que dès l'insurrection, la question de la torture apparaît dans les journaux. Et il est mis en cause directement et nommément. On a dans les journaux des articles entiers. Combien de temps François Mitterrand couvrira-t-il les tortionnaires, etc. Dès 1954-55. Il est très tôt interpellé. Il dit, en tant que ministre de l'Intérieur, que bien sûr, toutes les mesures seront prises pour empêcher cela. Mais en réalité, rien n'est fait et la torture va perdurer pendant toute la guerre d'Algérie.
Alors, effectivement, la crise va s'accentuer d'année en année. En 1956, un gouvernement socialiste est formé, présidé par Guy Mollet. Et là, la répression s'accentue au point que François Mauriac écrit ceci. Vous publiez cet extrait dans l'Express du 5 avril 1956. François Mauriac, qu'est-ce qu'un ministre socialiste ? Aujourd'hui, nous le savons. C'est un ministre qui exécute les sales besognes que le pays ne tolérerait pas d'un ministre de droite.
Ça se passe de commenter. Hein. Non, c'est effectivement très intéressant. Alors, François Mitterrand, à l'époque, n'est pas véritablement socialiste encore. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est un gouvernement socialiste, mais lui n'est pas socialiste.
L'a-t-il été
voilà.
Enfin, bon, c'est une autre question.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire-là, c'est qu'on a souvent dit, les historiens, ces biographes ont souvent dit que Mitterrand avait été victime, finalement, de la dérive répressive du gouvernement Guy Mollet. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. En gros, l'idée de ces gens, c'est de dire, vous comprenez, François Mitterrand était ministre de la Justice et le ministère de la Justice a été dessaisi de ses prérogatives au profit de l'armée, etc. Ce qui est vrai, mais il a accepté. Les pouvoirs spéciaux votés en 1956, il les a tous signés.
Et il est resté au pouvoir.
Et il est resté au pouvoir, voilà. Pierre Mendès-France, qui était le numéro 2 du gouvernement à l'époque, a démissionné. Alain Savary a démissionné. Lui est resté. Donc il a cautionné et il a des phrases extrêmement dures, des phrases qui cautionnent même l'usage de la torture en réalité. Hein, donc,
oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire on sort de la légalité.
Ah oui, complètement.
Républicain en Algérie.
Oui. L'état d'exception complet, on envoie le contingent, donc des centaines de milliers de jeunes gens pour se battre contre le FLN. Bon, et François Mitterrand cautionne tout. Alors, posteriori, comme toujours, il mentira en disant « oui, j'ai dû attendre longtemps avant de démissionner ». Mais il n'a jamais démissionné, il est resté jusqu'au bout dans ce gouvernement. Donc là, c'est vrai que moi, je conteste un petit peu l'histoire, disons, officielle autour de François Mitterrand, qui aurait été une sorte de victime de la répression, ce qu'on a appelé le national-molettisme. Non, il en fait complètement partie, il est un acteur actif. D'ailleurs, la presse de l'époque le remarque. Hein. Dans Le Monde, on voit des articles qui disent « Mitterrand n'est peut-être pas en première ligne, mais il cautionne tout à fait », etc.
Ce qui est notable, Thomas Deltombe, c'est qu'au fil des années, à la fin des années 50, on commence à parler, il y a des études, il y a des livres, il y a des intellectuels qui évoquent l'indépendance des pays africains, l'indépendance de l'Algérie. Et François Mitterrand continue dans sa voie réformiste.
Alors ça, c'est très intéressant, la notion d'indépendance, parce qu'il y a comme une allergie à ce mot. Dès que le mot « indépendance » est prononcé, quelle qu'en soit la définition, on sent qu'il a une sorte de refus instinctif. Il n'est pas possible d'envisager l'indépendance des anciennes colonies. On le voit sur le dossier indochinois, au moment des fausses indépendances, en fait, sont données au Laos, au Cambodge, au Vietnam. La France donne, pour faire plaisir, en fait, des fausses indépendances au début des années 50. Et il dit « ah, ça, c'est pas possible, parce que le ver sera dans le fruit ». Et dès que quelqu'un prononce ce terme, il le dit. Il y a une citation où il dit « Moi, j'ai jamais prononcé ce mot indépendance ». Il faudra attendre finalement l'arrivée au pouvoir de Gaulle pour qu'il commence à dire « C'est vrai que l'indépendance, si évidemment elle est complètement vidée de sa substance, hein, peut devenir une option pour effectivement maintenir la présence française sous une autre forme ». Mais il est... alors pour lui, l'indépendance, c'est quelque chose d'impensable.
Alors, 1958, c'est une date clé dans l'histoire de France, c'est une année clé. C'est aussi la fin des ambitions de François Mitterrand, entre parenthèses.
Ah bah, je ne suis pas sûr qu'il ait jamais arrêté d'avoir des ambitions, François Mitterrand.
Puis d'ailleurs, il prend un coup sérieux.
Alors, il prend un
parce qu'il est même battu dans la Nièvre, il n'est plus député.
Alors, juste avant ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement... J'ai intitulé la dernière partie La victoire en chutant. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, en fait. C'est-à-dire que.
C'est une excellente formule, en tout cas.
Cette idée qu'il faut réformer le système colonial pour le faire perdurer, c'est une idée qui devient généralisée dans les élites françaises. Tout le monde est d'accord avec cette idée-là, qu'il faut réformer le système colonial si on veut le faire perdurer. La question, c'est de savoir jusqu'où ira la réforme, quel type de réforme, etc. Lui, il en propose une, avec Félix Houphouët-Boigny, hein, dont il reste l'allié jusqu'en 1958. C'est l'idée de faire une communauté franco-africaine. Et il va très loin, hein, dans cette idée-là. Il est vraiment le chantre de cette idée de communauté franco-africaine. Il va même déposer des motions allant dans ce sens à l'Assemblée nationale. Il crée une sorte de simili-parti qui défend cette idée. Enfin bon, bref, il est vraiment le champ de cette idée qui sera ensuite reprise par le général de Gaulle. Et effectivement, à cause du dossier algérien, la 4ème République est complètement bloquée à l'époque, alors que lui s'attendait enfin à pouvoir accéder à Matignon, et bien la 4ème République tombe. Et pour lui, c'est un camouflet, parce que non seulement il passe tout d'un coup, alors qu'il est encore très jeune, il passe tout d'un coup pour un monsieur de l'ancien système, celui de la 4ème République, ça y est, il est dépassé, il y a quelqu'un d'autre. Et puis en plus, il est dépassé par des gens qui vont mettre en pratique ses idées. Alors, il se fait tout voler, en fait. Il se fait voler son ambition, toutes ses ambitions, en fait. Et effectivement, bah, c'est une chute vertigineuse, puisque quelques mois plus tard, il était député de la Nièvre, il perd son siège de la Nièvre, fin 58. Donc, il n'est plus rien.
Idée. Mais que va-t-il faire, François Mitterrand, Thomas Dalton, vous nous le rappelez, lors du procès de Salan, qui est un des généraux qui se sont rebellés et qui ont essayé de faire un putsch qui a manqué en 1961. Il va témoigner pour le général Salan à l'invitation de l'avocat de Salan, qui est Tixé-Vinancourt, un des imminents, entre guillemets, représentant de l'extrême droite de l'époque, d'ailleurs de l'extrême droite tout court.
Oui, alors, bon, ce que j'essaie de développer dans la fin du livre, c'est que cette idée d'un Mitterrand anticolonialiste découle en réalité du fait que Mitterrand était anti-gaulliste. Mitterrand était anti-gaulliste, il détestait De Gaulle, ça c'est de notoriété publique, il a écrit des livres contre De Gaulle, contre la 5ème République, etc. D'ailleurs. Je pense que c'était assez réciproque, mais en tout cas, il se positionne, François Mitterrand, pour essayer de rebondir sur la 5ème République, se positionne comme la figure de proue de l'anti-gaullisme. Mais comme il n'a pas grand-chose à faire valoir, il va essayer de réécrire son passé. D'où toute cette idée de réécriture de l'histoire de François Mitterrand. Et il est capable, alors un personnage très cynique, est capable de faire alliance avec tous les anti-gaullistes. Que ce soit Sékou Touré en Guinée, par exemple, il va rendre visite à Sékou Touré pour dire « Regardez, Sékou Touré, c'est quelqu'un qui était victime de De Gaulle. »
L'homme qui a dit non, voilà, à De Gaulle.
L'homme qui a dit non à De Gaulle. Oui. Il mérite bien leur indépendance. Bon, bref, quelque chose d'assez stupéfiant quand on sait quelques années plus tôt, il était lui-même contre l'indépendance. Mais pour répondre à votre question, quelques semaines après sa visite en Guinée, il se rend effectivement au procès du général Salan pour défendre finalement le général Salan, au grand effroi d'un certain nombre de gens de gauche qui disent « Bon, bah, effectivement, on n'aime pas les gaullistes, on n'aime pas De Gaulle, mais est-ce qu'on va pour autant aller soutenir des gens...
» Auteur d'un putsch manqué, mais...
Oui, et de terrorisme, enfin oui. Bref...
L'OAS,
etc. Oui. Donc, et voilà. Donc, on voit quand même un certain cynisme et véritablement une haine... De Gaulle. Voilà, donc ça explique, c'est à mon avis, alors peut-être d'autres spécialistes auront peut-être d'autres avis sur cette question, mais c'est véritablement un calcul anti-gaulliste.
Thomas Dalton, à la fin du livre, vous écrivez ceci. En 1965, lorsque Mitterrand s'est présenté et a mis en ballotage d'ailleurs De Gaulle, 4 mois avant le scrutin, écrivez-vous, tandis que Mitterrand joue les coudes pour s'imposer comme le candidat de la gauche, Pierre Stibbe, ancien résistant et avocat anticolonialiste, dresse dans le monde un portrait en ombre chinoise dont les lecteurs reconnaissent sans mal le modèle. Voici ce qu'il écrit Pierre Stibbe. Le candidat qui s'opposera vraisemblablement au chef de la France libre, à l'homme qui finalement a consenti à l'indépendance de l'Afrique noire, de Madagascar et de l'Algérie, doit n'avoir aucune compromission avec le régime de Vichy et n'avoir pris aucune part aux erreurs et défaillances d'une grande partie de la gauche dans les épreuves de la décolonisation. L'image de François Mitterrand, alors, est assez écornée.
Oui, et puis Pierre Stibbe est bien placé pour le dire, puisqu'il a été effectivement un avocat de beaucoup de militants indépendantistes, anticolonialistes, africains et malgaches. Ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est derrière le personnage de François Mitterrand, derrière cette idée de la décolonisation, il y a une certaine idée de la décolonisation. Je crois qu'on se fait un peu des idées sur ce que c'est que la décolonisation. On a l'impression que la décolonisation, ça a été le démembrement
La rupture totale.
Voilà, la rupture, le démembrement, le démantèlement de l'Empire colonial. Or, ce que montre François Mitterrand et d'autres de ce courant-là, c'est que pour eux, c'est pas la période, les années 50, la 4ème République, n'est pas une période de démantèlement. Ce n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose d'autre. Donc toute cette idée de réforme consiste non pas à démanteler, mais à se délester de ce qui gêne le projet colonial. Et c'est pour ça qu'il est véritablement, pour moi, le symbole du néocolonialisme qui se crée à cette période-là, et le mot apparaît à cette période-là. C'est qu'en fait, ils essaient de renouveler, de donner une cure de jouvence au colonialisme. Et donc c'est là que c'est intéressant de mettre en parallèle les récits qui ont été faits plus tard par lui-même et par un certain nombre d'historiens, d'observateurs, et les archives, de mettre en regard ces deux sources en réalité. Et on voit qu'il y a un mythe derrière la décolonisation française. Dans ce livre, c'est ça que j'essaie d'expliquer à travers le personnage de Mitterrand.
J'ai commencé l'émission, Thomas Deltombe, avec une considération qui voulait dire qu'on comprend mieux la politique africaine de François Mitterrand, président de la Ve République, en voyant ce qu'il a fait sous la 4e. Je trouve qu'il y a ça aide à comprendre. Je ne sais pas, je ne veux pas parler du Rwanda et d'autres pays, mais
on pourrait parler
moi je
ça
trouve
aussi.
Que ça aide beaucoup à comprendre le Mitterrand de la 5e République.
Alors effectivement, petite parenthèse, effectivement, on n'a pas parlé de sa crainte, sa hantise des Britanniques et des Anglo-Saxons, comme on les appelait. Et une des raisons des réformes, c'est justement on réforme pour pouvoir repousser
les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons. Les Anglais,
ouais. Mais peut-être plus que Mitterrand lui-même, c'est pas simplement comprendre la politique africaine de Mitterrand, c'est comprendre la politique africaine de la France. Mmh. Et c'était une idée qu'on développait dans le livre L'Empire qui ne veut pas mourir. L'idée que, en réalité, cette France-Afrique, elle n'a cessé de se réformer. Elle n'a cessé de se réformer pour perdurer. On dit toujours « Ah, ça y est, c'est fini la France-Afrique. Ah, le néocolonialisme français en Afrique, c'est fini. » Alors effectivement, ça change. Effectivement, peut-être que ça diminue. Mais en réalité, ça se perpétue. Et peut-être qu'on peut faire un parallèle avec quelqu'un comme Macron, comme le président Macron lui-même, un jeune homme très ambitieux, voilà, qui a les dents assez longues et qui est persuadé qu'il peut réformer la relation franco-africaine. Mais pas pour mettre fin à cette relation. Au contraire, pour faire perdurer un système qui reste très asymétrique.
Merci Thomas Deltombe. Il faut lire absolument votre livre, publié aux éditions La Découverte, qui s'intitule « L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français ». Il y a dans ce texte des révélations, des documents inédits, il y a aussi des photos qui en disent long aussi sur l'époque et sur François Mitterrand et l'Afrique. Merci.
Merci à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez-nous sur l'appli RFI Pure Radio, le site de la radio, bien encore votre plateforme numérique. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.